France Culture.
Et c'est reparti pour les Midis de Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant à 13h. Comme promis, on discutera avec l'artiste plasticienne Prune Nourry. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Dans le monde des enchères, un type de vente ne cesse de battre des records. Les mémorabilia qui proposent des objets ayant appartenu à des personnes célèbres. La dernière en date, celle du général de Gaulle, a dépassé toutes les estimations avec un résultat de 5,6 millions d'euros. Un soldat de plomb, ses carnets scolaires, des montres. En tout, 372 lots ont été vendus, dont 140 préemptés par l'État. L'aura des objets et leur valeur marchande, c'est le dossier du Point Culture du jour. Alexandre Millon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire-priseur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le succès jamais démenti de ces ventes que l'on appelle des mémorabilia, c'est-à-dire des ventes d'objets qui ont appartenu à des célébrités? Pourquoi le public est toujours friand de ces ventes-là?
Alors, je pense qu'il est... Il a toujours été friand. C'est vrai que c'est un petit peu une tendance qui s'en va crescendo depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. En fait, depuis que la société a appris à créer des stars, et lorsqu'elle les fabrique, elle les fabrique de plus en plus vite, ces stars. D'une part, elle les prend, elle les aime, elle les jette parfois. Et puis, quand elles ont vraiment, vraiment vécu, elle sait les ranger dans une case pour ne plus les oublier. Et d'où peut-être ce terme d'ailleurs « mémorabilia », c'est apprendre à se souvenir de quelque chose que l'on a, ou d'une personne que l'on a aimée. Et je dirais que ça va avec cette espèce de star system, cette machine star system qui est en place dans nos sociétés, et pas seulement occidentales par ailleurs, hein, c'est vraiment un phénomène purement mondial.
Quand vous évoquiez ce mot « mémorabilia », ça peut aussi faire penser à un vocable plus religieux, et quand vous parlez de cette starification, on pourrait penser aussi que finalement ces objets-là sont considérés par ceux qui les achètent comme des reliques, qu'on peut aller jusque-là ?
C'est vrai que la question essentielle, c'est de conférer une âme à des objets qui ont appartenu à un saint, et c'est une manière de s'approprier ce saint-là d'acquérir un bout de cet objet-là. Et cet objet, il est d'autant plus puissant en termes de pouvoir magique que d'autres personnes ont le même désir de possession que vous. Donc, tout le monde se réunit dans une grande prière pour donner une âme, conférer une âme à un objet et se souvenir, grâce à cet objet, de la personne qui a vécu à travers lui ou par lui. Et c'est là que la magie des enchères, là, pour le coup, prend tout son rôle, puisque on confronte ses désirs les uns avec les autres et on les emmène dans une compétition qui dure quelques secondes, quelques minutes, pour qu'il en sorte un vainqueur. Et ce vainqueur-là, à la fois, il a comblé son affect, puisque il est fan, il le veut, cet objet, il le désire. Et puis, dans le même moment, il a rempli une deuxième case, ce phénomène de fierté, qui est d'acquérir un petit morceau de l'imaginaire collectif, qui est incontestable, parce que on sait que la star en question, elle a appartenu à un certain moment, pendant un certain temps, à quelque chose qui représentait quelque chose d'important pour une société, pour une culture, pour un continent, pour le monde, pourquoi pas, voilà.
Mais ces objets-là, ils ont de la valeur juste par le fait qu'ils aient appartenu à quelqu'un de célèbre, c'est ce que vous venez de dire. Alors, où est-ce qu'elle se place, votre expertise, là-dedans ?
Ben c'est il y a quelques critères qui l'emporteront évidemment toujours. Que vous parliez de voyons voir de la Légion d'honneur de Napoléon, qui a appartenu à Napoléon. Ce n'est jamais qu'une Légion d'honneur, mais elle appartenait à Napoléon. Je ne sais pas combien pourrait valoir de dizaines de milliers d'euros la petite culotte de Madonna jetée à Jacques Chirac. J'en sais rien. Ou le bandeau de LeBron James en NBA. Ça, on peut déjà un peu plus savoir quelle est sa valeur, puisque c'est une réalité que l'on connaît par les enchères. Mais à travers le temps, tous ces objets, eux, prennent une certaine valeur qui devient complètement objective. Et plus seulement...
Mais sur quels critères, l'objectivité ? Donc la rareté ou le degré de célébrité de la personne ?
Je vous dirais que vous avez quatre critères qui l'emportent majoritairement quand on essaye de déterminer une valeur. Vous avez un premier critère, c'est la provenance. Voilà. Le fume-cigare de Maurice Druon en or, estimé 300 euros. Maurice Druon, l'académicien que nous avons vendu chez Milon il y a quelques mois, vendu 15 000 euros. Aucune raison. Il vaut 400 euros. aucune raison, si ce n'est l'appartenance à Maurice Druon, mais on sait que par le biais de ce fume-cigare, il y avait tout le génie, voilà, qui s'exprimait. Premier critère, la provenance. Deuxième critère, la rareté qui va avec. Il a appartenu à une seule personne. Il a pu être utilisé pour un événement précis. La rareté vient évidemment frapper de plein fouet la valeur. Je prends un exemple, la torche de Grenoble, la torche olympique de Grenoble qu'on nous a confiée, il y en avait 30 exemplaires, 33 exemplaires exactement en tout, qui ont pu participer, qui ont été offerts en cadeau ou qui ont pu participer à la course, au fameux relais. Une torche normale, on va vous dire, entre quelques milliers d'euros et une dizaine de milliers d'euros. Record que l'on réalise d'ailleurs chez Milon encore, 170 000 euros pour une torche olympique. Troisième critère, c'est la fameuse importance culturelle ou politique, ou de civilisation, la Légion d'honneur de Napoléon, qui était la petite Légion d'honneur qu'il portait à Sainte-Hélène et que nous avons vendue il y a un an exactement. Petite Légion d'honneur, reproduction, lorsque vous la vendez normalement, elle va faire quelques centaines d'euros. Là, par le truchement du personnage qui la portait, on explose les 220 000 euros. Pour cette petite Légion d'honneur. Évidemment, là, c'est Napoléon. Ça, c'est le troisième critère. Quatrième critère, oui, je pense que quatre pourraient largement suffire, l'état de conservation. Évidemment, si cette même Légion d'honneur, elle est toute rouillée à la porte de l'authenticité, cette rouille, mais quelque part, elle donne un petit peu moins envie. Elle éteint un tout petit peu le désir. Donc, quatre critères qui permettent de rejoindre une certaine forme d'objectivité dans la valeur, tandis que tout n'est que subjectif dans l'essence et le fondement du désir de posséder.
Et à qui revient l'argent majoritairement ? Est-ce que ce sont parfois des œuvres caritatives ou est-ce que ce sont toujours des ayants droit ou les descendants de la personne qui vendent les objets ?
Alors, vous avez raison de poser la question, mais alors non, enfin, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend évidemment de la manière dont le dernier possesseur possède l'objet en question. Si on s'étonne aussi parfois, hein, en tant que vendeur ou héritier d'un grand nom, que certains objets puissent avoir de la valeur. Hein. J'imagine que les héritiers de Jacques Anquetil dans le cycliste vont s'étonner qu'une chaussure ayant appartenu à leur aïeul puisse valoir soudain quelques milliers d'euros, alors que c'est jamais qu'une chaussure de cycliste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est soudain une valeur se crée, hein, c'est par un pur effet de magie capitalistique, si je puis dire. Et puis d'autres fois, eh bien, c'est... On imagine bien qu'un souvenir historique a une valeur en tant que telle. Alors, quand vous conjuguez un peu des effets et que vous avez une multiplication des critères de valeur, je prends un exemple, vous réussissez à réunir les 6 des 7 maillots de Lionel Messi, champion du monde, dans la dernière Coupe du Monde, et vous les avez signés et elles sont présentées aux enchères, résultat des courses, 6 millions d'euros.
Oui, c'est très étonnant les montants que vous évoquez à chaque fois qui sont complètement, qui semblent en tout cas déconnectés avec les objets que vous nous présentez. En tout cas, merci beaucoup Alexandre Mion pour toutes ces informations.
Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir. À bientôt.
Je vais garder tous vos stylos, Marie.
J'espère que vous gagnerez vous aussi 6 millions.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, deux militantes écologistes condamnées pour avoir aspergé une toile de Claude Monet.
Les faits datent du 10 février dernier au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Deux militantes du collectif Riposte Alimentaire avaient jeté de la soupe sur le tableau de Monet le printemps pour alerter sur l'urgence climatique. Elles ont été condamnées à une amende de 300 euros pour dégradation légère, une décision de justice relativement clémente. En septembre, deux militantes écologistes britanniques ont écopé, elles, de près de 2 ans de prison pour avoir asperger les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres.
Disney vient d'être attaqué en justice pour plagiat.
Oui, la firme américaine est accusée par le scénariste Buck Woodall d'avoir plagié un de ses projets pour réaliser les deux films Vaiana. La victime avait soumis en 2003 un scénario similaire à une entreprise proche de Disney, l'histoire d'une adolescente polynésienne qui quitte son village pour tenter de le sauver. Il demande donc en guise de dédommagement 2,5% des recettes des films, une somme conséquente quand on sait que Vaiana 2 a rapporté près $1 milliard de bénéfices. De son côté, Disney conteste ces accusations.
Et pour finir, Marie, on en sait un peu plus concernant les festivités prévues pour l'investiture de Donald Trump.
Oui, et les Village People ont annoncé qu'ils se produiront lundi prochain pour l'investiture du 47e président des États-Unis. Une annonce qui pourrait surprendre quand on sait que leur titre emblématique, YMCA, a beaucoup été utilisé par la communauté gay depuis sa sortie en 1978. Le chanteur et parolier du groupe Victor Willis affirme à présent que c'est un hymne mondial et qu'il n'y a aucune connotation homosexuelle.
Bien sûr. Merci Marie. À demain. En attendant, il est 13h. Vous êtes sur France Culture et vous écoutez les Midi de Culture.